France Inter.fr.
CO2 Mon Amour, avec Initiative, solution de financement des projets associatifs, sportifs et scolaires, à découvrir sur initiative.fr.
Ça se reconnaît en écologie.
Encore des mouvements de colère des routiers en France.
CO2 qui
contre le prix élevé du gazole.
Tu préfères les bagnoles ?
Peut-être !
Le bonus automobile plombe les comptes de l'État.
Mon Amour.
Oui, il y a urgence à agir pour sauver la planète.
Denis Chessou.
Bonjour à tous et bienvenue dans CO2 Mon Amour, l'émission qui empêche de polluer, de réchauffer, de penser en rond, en tout cas qui essaie, et qui prend le temps de ne pas aller trop vite. Avec aujourd'hui à la technique Sandrine Laurent et Philippe Duclos, et assisté de Stéphane Combe, c'est Valérie Ayestaraï qui réalise l'émission. Allez, une petite humeur, le nouveau papa entre deux avions a fort à faire, sans doute pour éteindre les incendies qui s'allument un peu partout sur le territoire et en Europe. Et dans les coulisses, eh bien, la parole est entrée aux urgences. Les plumes s'agitent, on écope, le ventre du bombardier d'eau s'ouvre, les discours pleuvent sur l'austérité qui est en marche. Et nous, eh bien, mauvais citoyens, nous ne consommons pas assez parce que c'est la charrue principale, on le sait, qui fait avancer le moteur de la France. On ne consomme pas assez parce qu'on ne le peut pas, parce qu'on a la trouille et peut-être aussi parce qu'on change de Dieu et qu'on a une vague conscience écologique de ce qui est nécessaire, de ce qui est jetable et futile. Sans pour autant renoncer au plaisir. Plus d'être et moins d'avoir, c'est ce que nous rappelait encore Joseph Stiglitz ce matin dans l'émission d'Alexandra Ben Saïd. Et notre président, donc en Mayenne, a fêté cette semaine les 4 ans du Grenelle de l'environnement. Alors le problème, c'est que la peinture verte de la belle idée de départ n'était pas forcément d'excellente qualité, délavée depuis 4 ans, cloquée par la chaleur et le détricotage des assemblées. On retrouve aisément par-dessous le paysage auquel on était habitué. Donc un simple coup de rouleau n'aurait pas suffi, il va falloir quand même gratter jusqu'à l'os et faire le bilan de ce qu'on n'a pas réalisé, ce qui n'est pas facile. Donc on va dire comment sabler le champagne et faire la fête sur un tel renoncement, même si on se refuse de jeter le bébé, surtout en ce moment, et l'eau du bain avec. Bon, des avancées sont à mettre à l'actif du gouvernement, mais sans chercher à être inconsidérément impatient, que voyons-nous en fait depuis 4 ans ? Sur l'asphalte triomphant, les poids lourds de plus en plus lourds, de 44 tonnes, on la voit libre. Pas de taxes pour eux, repoussées jusqu'en 2013. Les énergies renouvelables ont le frein à main serré pour se développer. La part du fret ferroviaire a été divisée par deux entre l'an 2000 et 2010, pendant qu'elle doublait en Allemagne. L'agriculture industrielle empoche des primes, tandis que disparaissent emplois et petites exploitations. Les élevages de porcs s'étendent en Bretagne, tandis que prospèrent les algues sous les yeux de l'Union européenne, qui nous fera passer à la caisse bientôt. La rénovation des bâtiments anciens est très timide, la contribution climat-énergie est abandonnée, re-homologation du cruiser, TVA à 5,5 est la moins chère d'Europe sur les pesticides et nous risquons encore de tomber dans les panneaux publicitaires qui embellissent nos villes, en veux-tu en voilà, donc je vais quand même un petit peu m'arrêter là, sans peut-être oublier, sans parler du parc nucléaire rayonnant de surcoût et de la recherche qui est exsangue par manque d'argent public. Bien, on a une bonne nouvelle quand même, c'est que demain, on espère qu'on va gagner face au gros bébé plein de muscles néo-zélandais, oui. Mais rassurons-nous, après la douche froide, eh bien, le vin blanc bio coulera à flot dans les verres en plastique recyclés et le buffet sera assuré avec des produits locaux du terroir sur fond de villages fleuris. Pour le reste, les autres ou bien les mêmes s'en chargeront après les élections. Après moi, le déluge et le réchauffement climatique, disait Louis XV, mais c'était au temps des rois absolus où le pouvoir n'était pas partagé. Ce sont des temps fort heureusement révolus. Nous parlons d'agriculture qui regagne du terrain dans et autour des villes aujourd'hui. Ça va être notre dossier parce que sous les yeux, j'ai cette revue suisse qui est très très bien, qui s'appelle La Revue Durable pour s'informer et s'engager vraiment sur l'écologie. Bonjour Jacques Mirinovitch.
Bonjour Denis.
Alors vous êtes le cofondateur avec Surgelin Jourdan et rédacteur en chef de cette revue, La Revue Durable. J'ai presque envie de vous dire, ça c'est un mouvement de reconquête actuellement, qui est quand même peut-être d'une belle ampleur, qui pousse dans les villes. Est-ce que c'est une vision optimiste ? Ce sont des simples expérimentation des réalités, cette agriculture qui gagne du terrain là ?
Oui, c'est un titre volontairement optimiste parce qu'effectivement, les nouvelles, vous l'avez rappelé dans votre chronique, sont globalement mauvaises et elles sont pas bonnes non plus pour l'écologie. Mais il y a quand même un domaine, celui de l'agriculture urbaine, où il y a des raisons de se réjouir. Il y a des nouvelles relativement réconfortantes. Et donc ce dossier regarde un petit peu tout ce qui se passe dans ce secteur et on l'a volontairement, de manière optimiste, intitulé « L'agriculture regagne du terrain dans et autour des villes », même si on sait qu'il y a beaucoup de bétonnage et beaucoup de choses qui ne vont pas du tout du côté de l'agriculture.
C'est-à-dire que d'un côté, le cher Sully, ministre d'Henri IV, nous disait « Labourage et pâturage sont les deux mamelles de la France. Autre mœurs, autre temps, bétonnage et goudronnage sont les deux mamelles de la modernité inconsciente, c'est un peu ça. Quoi.
Ouais, c'est une manière de résumer le problème auquel on est confronté. Oui.
Bon, alors, écoutez, on va pouvoir le détailler parce que des choses se font, pas seulement en France, mais en France aussi, on ne le sait pas forcément, donc on a pas mal d'exemples à donner. Claude-Marie Vadreau nous a rejoint aussi, journaliste à Politis et qui connaît très bien ces enjeux aussi environnementaux, mais là, il va prendre sa casquette de Île-de-France Environnement, parce qu'il se passe aussi des choses importantes sur l'Île-de-France, donc on va en parler aussi avec lui. Je vous demande pas si vous connaissez Jean-Marie Pelt, hein.
Bon, il est un petit peu connu.
Il est un petit peu connu. Ben allez, on va lui faire un grand bonjour. Vous allez voir, on va changer complètement de sujet. Quoique, bonjour Jean-Marie.
Bonjour Denis, bonjour à tous.
Nous allons ouvrir un nouvel ouvrage aux éditions Flammarion qui s'appelle « Heureux les simples ». Alors on pourrait se dire, c'est un ouvrage sur les plantes.
Oui, parce que les simples, c'est les plantes médicinales.
C'est ça.
Et elles guérissent. Et en fait, c'est un bouquin sur les saints. Oui. Pas les nénés, les saints, qui sont au ciel, n'est-ce pas?
C'est ça.
Et ils nous guérissent l'âme, ceux-là. Et comme je suis très fatigué des people, ils nous ont kikine, les people, les milliardaires, leurs phrases, que j'en s'en fous, en fait.
Ouais.
J'ai trouvé qu'il fallait regarder sur des personnages qui nous étonnent.
Oui.
Ce sont des athlètes de l'amour, comme on est en train de rêver à faire après la chute inexorable de notre civilisation.
Oui.
On va faire la civilisation de l'amour, naturellement.
Oui, bien sûr.
Et ben, ils nous montrent le chemin.
D'accord.
Et alors, ils ont des vies extraordinaires. C'est des romans, leur vie.
Oui.
J'en ai cité une vingtaine.
Oui.
Chacun est une sorte de roman. Ça ferait des fictions terribles à la télé.
Alors, on va regarder Monsieur François d'Assise, qui n'était pas encore un saint donc à l'époque.
Oui, alors c'est un personnage colossal. C'est lui qui est l'inspirateur du plus grand nombre de biographies au cours des 10 dernières années, en France.
Mm-hmm.
Il sort un bouquin sur lui tous les 6 mois à peu près.
Et si on en parle, c'est parce qu'il a quand même un rapport avec l'écologie.
Absolument, hein, absolument. Il aimait profondément la nature. Il a vécu au XIIIe siècle, il adorait les oiseaux, il adorait les petites brebis, il se promenait toujours avec une brebis. Il faisait des sermons aux oiseaux, il enseignait l'évangile. Et puis les oiseaux l'écoutaient.
Oui.
Et puis quand il avait fini, il leur disait, non, c'est fini, allez-vous-en.
Oui. Envolez-vous.
Envolez-vous. Alors il a sauvé comme ça un petit lapereau qu'on avait pris au collet. Il a sauvé des poissons. Quand il voyait un pêcheur, il prenait le poisson, il le rejetait dans l'eau,
oui,
après lui avoir fait un sermon.
C'était un peu l'ancêtre des parcours, ce qu'on appelle no-kill, c'est-à-dire où on ne tue pas le poisson, on le remet à l'eau.
Et c'est ce qu'il faisait. Puis alors il a apprivoisé un loup. Le loup de Goubiot,
faisait
une terreur pour les habitants de Goubiot. Alors il a été droit sur le loup et il lui a dit « Alors maintenant, ça suffit
!»
C'était un enfant du Seigneur,
oui,
il doit le comporter comme tel. Et le loup lui a donné la patte et il lui a promis de ne plus embêter les gens de Goubiot. Et il est devenu chien subitement, apprivoisé en un clin d'œil.
Le loup est transformé en teckel.
Absolument. Et il a été gentil comme tout, il a passé sa vie entière à être gentil avec les habitants de Goubiot. Ça, c'est pour l'amour de la nature.
Ça relève un peu, on va dire, des merveilleux, comme on disait au Moyen-Âge.
Le merveilleux du Moyen-Âge, c'était tout à fait ça. C'est-à-dire qu'on mélangeait la réalité, la légende, et puis on enjolivait les choses, et ça faisait rêver, ça stimulait l'imaginaire. En fait, c'était les people de l'époque.
D'accord.
Ils stimulaient l'imaginaire. Alors, il a une deuxième caractéristique moderne pour un écolo, c'est qu'il était sobre.
Ah oui, sobriété.
Mais il était tellement sobre qu'il s'infligeait des ascèses effroyables, comme c'était le cas au Moyen-Âge. Et quand sa dame de cœur, parce qu'il avait un grand amour platonique pour Claire. Quand il allait voir Claire, il avait de terribles émotions.
Oui.
Ses frères lui disaient, viens François, on va aller chez Claire aujourd'hui. Il dit, il avait peur de ses émotions.
Ah oui.
C'était un amour platonique, un amour courtois.
Oui,
et Claire lui faisait des bons petits plats.
Oui.
Alors, il mettait des cendres dans le petit plat pour ne pas chuter en gourmandise. Il n'a pas usé les ressources de la planète.
Oui, ça vient de là. Enfin, ça peut venir de là.
Oui, il était tellement sobre qu'il consommait peu de ressources.
Et le nom que l'on connaît, les Clarisses, ça vient de Claire ?
Oui, bien sûr. C'est l'ordre. Lui, c'est les Franciscains et elle, c'est les Clarisses.
Okay.
Alors, il avait aussi une autre caractéristique, c'était ce qu'on appellerait aujourd'hui un non-violent. Il a fait les croisades.
Oui.
Alors, il est parti 3 fois aux croisades. La première fois, il a fait naufrage. La deuxième fois, il est tombé malade. Et la troisième fois, c'était la bonne. Et quand il a été voir le sultan, parce que personne n'a jamais compris comment il avait fait pour arriver devant le sultan. Il a prêché au sultan sur Jésus. Le sultan aurait dû lui couper la tête, naturellement. Mais voilà, pas que le sultan l'a écouté. Et il a trouvé que ce gueux, parce que c'était un gueux, c'est un pauvre mec, quoi, que ce gueux était émouvant. Et alors, il a proposé de le faire ramener avec plusieurs ânes, avec des cadeaux pour ses amis. Et François a été horrifié par l'idée d'avoir des cadeaux. C'est pas son truc, les cadeaux. Lui, il fallait qu'il soit sobre. Et donc, il est reparti, il a traversé les lignes des Sarrasins, et il est revenu en Italie en ayant fait les croisades à sa manière, c'est-à-dire comme un non-violent. Et alors, en plus, il n'aimait pas l'argent. Donc, il est très moderne. Il n'aimait pas l'argent. Il disait à ses frères, travaillez, et vous pouvez faire la quête, mais pas de quête d'argent. Vous pouvez quêter de la nourriture, mais pas d'argent. Parce que l'argent, c'est pire que le fumier, qui disait, de l'argent. Alors, comme il avait fait des ascèses de cheval, il est mort jeune.
Et 44 ans, je crois.
44 ans, parce qu'il avait dit qu'il avait usé trop vite son bourricot en parlant de son corps. Alors voilà un personnage qui est à la fois amoureux de la nature, qui est sobre dans ses consommations, qui vit des grands amours mais platoniques à la manière du Moyen-Âge, qui fait les croisades en tant que non-violent, qui n'aime pas les dollars. Est-ce qu'il y a plus moderne que lui ? Il n'y a pas plus moderne que lui.
Il a un petit peu d'avance par rapport à notre société quand même complètement décadente.
Oui. Alors lui, il était recadent. C'était pas un décadent, c'était un recadent. Il a d'ailleurs joué, il a une influence énorme dans l'Église, qui elle était alors complètement décadente à son époque. Alors il est devenu le patron des écolos. Nous, on est à Metz dans un cloître franciscain, à un endroit où les tout premiers franciscains sont arrivés 5 ans après la mort de François et ils n'avaient pas encore à cette époque-là traversé les Alpes. Nous sommes à l'endroit où il y a eu les premiers franciscains au nord des Alpes. Donc c'est un lieu magique que vous connaissez bien.
C'est sûr, le cloître des Récollets.
C'est notre cloître des Récollets. Alors moi j'ai beaucoup d'affection pour François parce que quand j'étais louveteau, c'était le saint des louveteaux, à cause du loup de Goubiot précisément. D'accord. Et donc j'ai été élevé à travers les merveilleuses histoires que racontent les Fioretti. Les Fioretti, c'est des petites fleurs, des fleurettes qui sont dédiées à son souvenir et qui racontent des histoires extraordinaires. Il faut lire les Fioretti, mais je les raconte dans le bouquin aussi.
Bon, très bien. Assise, parce que...
Il était d'Assise.
Il était canonisé assez jeune, en fait.
Très tôt. Très tôt. Tout après sa mort. Il était énorme, c'était un personnage immense, immense. Il était mystique, et, il s'est retiré sur le mont Alverne avec son copain, le frère Léon. Alors le frère Léon le surveille de loin parce qu'il était en extase perpétuelle. Alors le frère Léon allait lui dire, François, t'as plus rien mangé depuis 8 jours. Ah. Oui, c'est très émouvant aussi, ses relations avec ses frères.
Il continuait à parler aux oiseaux à cette époque-là aussi
Il parlait toujours aux oiseaux, mais il était d'une immense bonté et il aimait les pauvres gens. Il allait embrasser les lépreux, ce qui était horrible à l'époque. Et il disait que la joie parfaite, c'est quand tout le monde est méchant avec toi. Alors quand tout le monde est méchant avec lui, ben, il disait, c'est maintenant la joie parfaite. Il faut apprendre à vivre avec les méchants. Et il transformait les méchants en bons. C'est quand même beau. C'est un beau people, quoi,
c'est
ça.
C'est un beau people. Oui. Bah, écoutez, mais peut-être qu'on pourrait faire un opéra rock avec lui. Vous voyez,
tout à fait.
Alors je peux vous renvoyer donc à cet ouvrage, Heureux les simples, et heureux Jean-Marie Pell, que nous retrouverons la semaine prochaine. Au revoir Jean-Marie.
Au revoir Denis, au revoir à tous.
Et maintenant, ça va être place à la culture et à l'agriculture qui regagne du terrain dans et autour des villes. Ce sera juste après Hubert Félix Yeffen, ce soir. Où il sera ? Eh bien, il sera à Bercy.
Sous un brouillard d'acier, dans les banlieues d'Izmir, de Suse ou Santa Fe, 6 milliards de pantins, au bout de la lumière, qui se mettent à rêver d'un nouvel univers. Mais toi, tu restes ailleurs, dans un buzz immortel, à fabriquer des leurs en fleurs artificielles. Pour les mendiants qui prient, les dieux et les chimères, les trafiquants d'espoir aux sorties des vestiaires, je t'aime et je t'attends à l'ombre de mes rêves. Je t'aime et je t'attends et le soleil se lève. Et le soleil dans un rideau de feu, dans les banlieues d'Oakland, de Cusco ou Montreux, 6 milliards de fantômes qui cherchent la sortie, avec des sonotones et des cannes assorties. Mais toi tu viens d'ailleurs, d'une étrange spirale, d'un maelstrom unique dans la brèche spatiale, avec autour du cou des cordes de piano et au poignet des clous pour taper le mambo. Je t'aime et je t'attends à l'ombre de mes rêves. Je t'aime et je t'attends et le soleil se lève. et le soleil dans son plasma férique, dans les banlieues d'Hanoï, de Sfax ou de Munich. 10 milliards de lépreux qui cherchent leur pitance dans les rues de l'amour en suivant la cadence. Mais toi tu cherches ailleurs les spasmes élémentaires qui traduisent nos pensées comme on traduit Homère. Et tu m'apprends les vers d'Anna Akhmatova pendant que je te joue Kejal l'harmonica. Je t'aime et je t'attends à l'ombre de mes rêves. Je t'aime et je t'attends et le soleil se lève. Et le soleil ivre de ses vieux ors dans les banlieues d'un Cordos, d'Oulan-Bator, 6 milliards de paumés levant la tête au ciel pour y chercher l'erreur dans un vol d'hirondelles. Mais toi tu planes ailleurs sur des nuages flous, dans de faux arcs-en-ciel vibrants de sable mou. Tu chantes des arias d'espoir universel pour faire que le soleil se lève sur nos emails. Je t'aime et je t'attends à l'ombre de mes rêves. Je t'aime et je t'attends et le soleil se lève. Et le soleil là-bas sur l'horizon venant d'Héliopolis en jouant Hyperion. 6 milliards de groupies qui l'attendent hystérique dans le stade au jour J en brouillant la musique. Mais toi tu squattes ailleurs dans un désert de pluie en attendant les heures plus fraîches de la nuit. Et tu me fais danser là-haut sur ta colline dans ton souffle éthéré de douceur féminine. Je t'aime et je te veux à l'ombre de mes rêves. Je t'aime et je te veux et le soleil se lève.
Fièvre résurrectionnelle, c'était Hubert Félix Yeffen, un homme de la campagne d'ailleurs. Un jour, on ira faire un reportage, à mon avis pas ce soir parce qu'il ne sera pas disponible, parce qu'il est à Bercy. Partenariat donc France Inter, mais chez lui dans le Jura, dans son Jura natal. Nous sommes avec Jacques Mirinovitch, qui est avec cette revue franco-suisse qui s'appelle donc La Revue Durable, et avec ce dossier très intéressant et important, l'agriculture regagne du terrain dans et autour des villes. Peut-être une définition de cette agriculture, on va dire urbaine et périurbaine.
Oui, bah c'est tout bête. Par agriculture urbaine, on entend l'agriculture qui est pratiquée dans l'enceinte des villes, à l'intérieur de l'espace construit, et puis immédiatement à la périphérie. Et ça inclut, ça peut être les plantes aromatiques sur un balcon, mais ça peut être de véritables fermes avec, par exemple, de l'élevage.
Mmh. Et lorsqu'on parle de la France simplement, j'ai vu que 35% des exploitations sont en zone périurbaine. Alors, on va dire que si on prend la région parisienne, ça va être un cercle de 50-70 km à peu près. Bon, tout ceci est très variable. Quels sont les enjeux et les tendances de cette agriculture?
Mais disons, il faut d'abord voir de manière très schématique et plus générale qu'il y a, on peut dire deux grandes tendances qui sont à l'œuvre. L'une, c'est une tendance à la mondialisation des échanges agricoles, aux cultures d'exportation. Ça implique la disparition des agriculteurs au profit des toujours plus grandes exploitations, au bétonnage, l'étalement urbain autour des villes. Et aussi, il ne faut pas négliger à la perte des paysages agricoles qui ont leur vie propre, que nos grands-parents ont bien connue, et qui sont pourtant importantes d'un point de vue patrimonial. Et à mon avis, ça, c'est assez dangereux comme tendance. Et puis, de l'autre côté de cette tendance que je viens d'évoquer, qui est très majoritaire, malheureusement, eh bien, il y a aussi une tendance qui est forte, qui est très réelle, de la part de beaucoup de gens qui veulent renouer les liens avec la terre nourricière, à la périphérie des centres urbains, mais aussi à l'intérieur des villes, et pour toute une série de raisons qui sont d'ailleurs pas toujours directement de nature écologique.
Oui, non, mais donc on voit bien que quand même avec la crise, de plus en plus de gens maintenant s'approprient pour manger, simplement effectivement pour pouvoir manger et manger mieux cette affaire. Mais est-ce qu'il y a quand même aussi l'aspect écologique quand même, ou la qualité de vie qui ressort?
Oui, bah disons d'un côté du spectre, il y a une aspiration à avoir une nourriture saine, hein, dont on connaît l'origine. Alors elle est bio, mais on a un contact direct avec l'agriculteur. Mmh. Donc là, c'est les fameuses AMAP qui existent depuis 10 ans tout juste en France, puisque ouais. la première a été créée à Aubagne.
Avril 2001.
Exactement, voilà, c'était ça, ouais. Ouais. Et 10 ans plus tard, on en est à peu près à 1200, dont 230 en Île-de-France. Donc c'est une progression qui reste relativement anecdotique par rapport au phénomène que je viens de décrire.
Oui, parce que ça nourrit 200 000 personnes, quoi.
Voilà, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est une tendance force hein, qui a tendance à s'accélérer depuis 2008 et 2009. Et puis, à l'autre bout du spectre sociologique, il y a ce qu'on pourrait appeler aussi une agriculture de survie.
Celle-là, oui.
Et là, je pense que la ville de Détroit, ou ce qu'on pourrait appeler le syndrome de Détroit, est tout à fait révélateur.
Alors ça, racontez-nous, qu'est-ce qui s'est passé à Détroit? Parce qu'évidemment, c'était le symbole, on va dire, des grosses 4x4, là. Et maintenant, ils sont vraiment, franchement, en panne d'essence, donc ils sont dans le dur. Et je vois aussi dans votre revue qu'en quelques années, donc ce leader mondial, ils sont devenus, en fait, ils étaient leaders mondiaux, on va dire, des grosses voitures. Deviennent le leader mondial de l'agriculture urbaine.
Ah oui, parce que voilà, l'industrie des Cadillac, des Dodge et des Chrysler s'est effondrée. Et moi, je trouve ça absolument incroyable. Cette ville qui comptait à peu près 2 millions d'habitants il n'y a pas si longtemps en compte maintenant 1 million. Donc ça veut dire qu'énormément de gens sont partis parce qu'il n'y a plus d'économie. Et comme toujours, il y a des gens qui restent en rade parce qu'ils n'ont absolument nulle part où aller d'autre. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Très spontanément, ils se sont mis à réinvestir les parcelles en friche. On estime qu'elles étaient à peu près 200 000. Et en 2003, on comptait 18 jardins communautaires. On en est maintenant à 1300. Et tout ça débouche sur une véritable nouvelle économie qui s'appuie sur l'agriculture vivrière à Détroit. Et donc, c'est un nouveau départ, finalement, une autre aventure pour cette ville.
Ah, on verra aussi comment ça se passe dans l'autre coin du monde. Je crois que d'ailleurs, tout à l'heure, nous irons du côté de Tokyo. Et il y a aussi donc, l'aspect social qui est extrêmement important. Alors, ce que je vous propose, c'est d'aller pas très loin. On va aller à Sevran. On va rejoindre Xavier Guillaumard, qui est chercheur à AgroParisTech, qui est géographe, et qui va nous parler de ces jardins d'insertion qu'il regarde et qu'il suit. Sevran, c'est 50 000 habitants. C'est 41% d'habitants qui ont moins de 25 ans qui sont au chômage, malheureusement. 22% de la population qui est en dessous du seuil de pauvreté. Et avec vous, donc, Xavier Guillaumard, on va parler de ces jardins d'insertion. Xavier Guillaumard, bonjour à vous d'abord.
Oui, Denis Chessou, bonjour.
Et alors donc, ça se passe entre autres dans un quartier donc, assez difficile, qui est le quartier du Pont Blanc, et qui accueille ce jardin d'insertion. Alors racontez-nous, qu'est-ce qui se passe?
Oui, ce qui s'est passé d'abord, c'est l'initiative d'une société HLM, Logirep, qui a eu la bonne idée de transformer un ancien terrain vague en potager. Donc, au sein même de l'opération HLM du départ, ils ont eu la bonne idée de garder un bout du terrain pour y insérer un jardin d'insertion par l'activité économique. Donc c'est important de placer ça très en amont du projet urbain, dès le départ, de penser de penser à cette initiative de mettre de la place pour le travail et pour l'agriculture.
Alors comment fonctionnent ces jardins, ou ce jardin, parce que c'est plus d'un hectare quand même aujourd'hui, avec ces jeunes en difficulté?
Alors c'est effectivement 1,4 hectare de culture, c'est-à-dire deux terrains de foot. Et sur ces deux terrains de foot, on a 70 paniers par semaine produits par 18 personnes en insertion. Mm-hmm. Donc des personnes qui sont loin du monde du travail, qui ont eu des accidents de la vie et qui n'y connaissent a priori rien au maraîchage au départ, et que les services sociaux orientent vers ce jardin pour petit à petit préparer un retour à l'emploi, c'est-à-dire retrouver des horaires de travail, retrouver un travail d'équipe, respecter les consignes et puis produire. Donc produire quelque chose et pourquoi pas de l'alimentaire.
Alors ça couvre simplement la vente de ces paniers, 7% des charges. Donc on imagine bien qu'il y a évidemment une subvention à la fois de la part de la ville, à la fois de la part peut-être du département. Mais derrière tout ça, il y a encore des choses qui sont extrêmement importantes. D'abord, c'est couplé avec des jardins ouvriers, des jardins partagés. Et quand on parle de restructuration urbaine et sociale, on est en plein dedans.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, notamment à Sevran, donc effectivement en pleine zone urbaine sensible, c'est cette articulation entre un jardin d'insertion, donc pour les personnes qui vont rester en moyenne 10 mois et dont à peu près un tiers vont, grâce à ça, trouver un travail derrière, parce qu'ils auront désamorcé soit un problème d'addiction, soit un problème administratif, soit un problème de tout simplement de remotivation. Et donc ces jardins d'insertion sont mitoyens avec d'une part des jardins pédagogiques pour les écoles primaires du quartier et d'autre part un jardin partagé qui est co-géré par 28 familles qui là aussi sont en responsabilité pour produire sur des petits lopins de terre pour produire pour eux-mêmes. Et donc il y a une espèce de d'effervescence, d'osmose entre ces trois types de jardins qui crée une ambiance, qui crée un espèce de petit poumon vert au milieu de cette zone urbaine sensible.
Et Xavier Guillaumard, on est aussi avec le phénomène de bandes, donc malheureusement, ça veut dire qu'en 97, donc ces bandes menaçaient de piller ces jardins, et en fait, il n'en a rien été. Et lors des émeutes de 2005, on a aussi épargné tous les jardins. Donc là, il y a aussi un lien, on veut dire, social tout à fait indirect grâce à ces jardins.
Oui, effectivement, comme le disait le premier directeur des jardins, M. Tran, on connaît tout le monde, c'est-à-dire qu'entre les enfants des écoles qui sont dans les jardins pédagogiques avec leurs maîtresses, les familles qui vont là dans les jardins partagés ou les familles qui ont un membre de la famille qui soit est actuellement dans le jardin d'insertion par l'activité économique ou l'a été, ça fait quand même beaucoup de monde de toucher et donc une utilité sociale à peu près évidente pour les gens du quartier. Alors c'est vrai que peut-être la limite qu'on peut voir, c'est la question est-ce que le quartier se nourrit un peu ou pas de ses jardins. En fait, les seuls qui vont se nourrir de ces légumes bio, bon, pourquoi bio? Parce que plus c'est bio, plus ça demande de manœuvre. Les seuls qui vont s'en nourrir dans le quartier, ce sont ceux qui sont en insertion dans ces jardins et auxquels l'association Aurore propose les paniers à moitié prix. Mais les autres habitants du quartier, pour eux, c'est, je pense, d'une part un peu trop cher d'acheter un panier une fois par semaine, oui, entre 9 et 15 euros. Et d'autre part, il faut aussi un peu avoir une certaine culture pour aller chercher une fois par semaine un panier dans lequel on ne sait pas, comme pour les AMAP, hein, même si on ne sait pas ce qu'on va y trouver. Donc on a plutôt là des familles qui cherchent des produits bien précis pour des plats bien précis et qui sont ni financièrement ni culturellement en phase a priori avec ces jardins.
Alors en tout cas, ce qui est intéressant dans l'expérience, c'est qu'une fois de plus, l'écologie, l'environnement, bien compris, doit faire le lien avec le social, on est en plein dedans. Donc c'est pas la solution, loin de là, mais en tout cas, d'autres quartiers de la commune sont maintenant demandeurs d'autres jardins. Il y a une réserve foncière, je crois, d'une trentaine d'hectares à Sevran, donc ça va pouvoir se développer. Je remercie beaucoup Xavier Guillaumard, donc pour nous avoir présenté cet aspect-là, que l'on retrouve dans cette fameuse revue durable. Vous preniez des notes, Claude-Marie Vadreau, par rapport donc peut-être à ce thème, je sais pas ce que vous.
Oui, effectivement, parce qu'il y a plusieurs étages à la fusée agricole pardon, autour des villes. Il y a les jardins partagés ou communautaires, il y a les jardins d'insertion qui sont déjà un peu plus une exception, les jardins familiaux, vous avez les jardins privés, et puis il y a la nécessité, il faut ajouter à ce spectre, toute une ceinture verte d'agriculteurs qui vont vivre normalement, sans subvention, enfin sans autre subvention que celle prévue par l'État, bien chichement, de leur travail. C'est ça, il faut redonner une ceinture verte à la ville, aux périphéries, pour rapprocher, et c'est le sens de toutes ces expériences, rapprocher le producteur du consommateur. Que ça soit bio, bon, c'est bien. Mais ça n'est pas obligatoire. Cela dit, quand on regarde l'Île-de-France, on s'aperçoit que toutes les demandes de réinstallation d'agriculteurs et de maraîchers se font sur le bio. D'abord parce qu'ils ne veulent plus s'empoisonner, surtout si ce sont des jeunes. Et puis ensuite, bah, c'est un marché porteur.
Ouais. Alors on va voir avec vous, Claude-Marie Vadreau, aussi tout à l'heure, donc ce qui se passe réellement en Île-de-France, donc ce premier bassin de 12 millions d'habitants. Et puis on va poursuivre ce voyage avec d'autres expériences. On va partir tout à l'heure à Kyoto. Ce sera juste après Renan Luce, Les Voisines et Fontaine du Jardinage. Pas sûr.
CO2, mon amour, Denis Chessou.
J'ai toujours préféré aux voisins les voisines dont les ombres chinoises ondulent sur les volets. Je me suis inventé un amour pantomime où glissent en or et noir tes bas sur tes mollets de ma fenêtre en face. face. Je caresse le plexiglas. Je maudis les techniciens, dont les stores vénitiens découpent dans tranches la moindre paire venge déjà pillée. J'ai toujours préféré aux voisins les voisines. J'ai toujours préféré aux voisins les voisines.
Renan Luce. Alors en plus, si les voisines font sur leur balcon du jardinage, de l'agriculture urbaine, mais alors là, c'est véritablement l'extase. Et c'est des rencontres fabuleuses. Nous sommes en plein dans cette agriculture urbaine avec vous, Jacques Mirenovitch, et puis Claude-Marie Vadraud, avec cette revue durable. Donc on comprend bien que c'est pas... Alors, les motivations sont très différentes. On a bien pigé que ça pouvait être un truc pour Bobo d'un côté, que c'est des gens aussi qui ont faim, et avec la crise, eh ben, simplement ils sont en train de s'alimenter comme ils peuvent les uns et les autres. Il y a peut-être aussi quand même quelques raisons écologiques, on peut faire le lien.
Bah oui, tout de même, heureusement, l'agriculture urbaine pousse l'agriculture biologique, ça c'est très très clair. Hein. Si on regarde les statistiques, il y a un lien très très fort. Et donc c'est très très bon pour l'écologie, pour tout un tas de raisons. Parce que si on n'utilise pas d'engrais de synthèse et de pesticides, ben on n'utilise pas d'énergie fossile pour les produire. Donc on diminue les besoins en énergie, on diminue les émissions de gaz à effet de serre. On sait que des sols cultivés en bio ont une forte propension à capter le CO2. Si on plante des arbres fruitiers, eh ben on stocke du carbone. Donc c'est très bon du point de vue de l'énergie et du point de vue du climat. Et c'est très bon aussi pour une raison très forte, c'est que si on cultive en agriculture biologique, eh bien ce qu'on fait, c'est qu'au lieu de polluer l'eau, on la purifie. Donc là, il y a un service inestimable qui est produit par l'agriculture urbaine de nature écologique. Alors maintenant...
Le potentiel.
Le potentiel.
Oui, qu'est-ce que ça peut représenter
Alors là, on a la chance d'avoir une étude qui a été réalisée sur l'agglomération rennaise.
C'est-à-dire 400 000 habitants, me semble-t-il, voilà. Et 27 communes.
C'est ça. Donc il y a 200 000 habitants dans la ville de Rennes elle-même et un archipel de 37 communes alentour qui représentent également 200 000 habitants. Donc ça fait 400 000 au total. Mmh. Et si on regarde uniquement à l'intérieur du périmètre de l'agglomération, donc de ces 37 communes, eh bien, on s'aperçoit que les sols dans cette zone peuvent produire 38% des besoins alimentaires de la population. Donc, moi, ça me paraît tout à fait énorme. Oui. Alors évidemment, il faut faire un certain nombre d'hypothèses sur le régime alimentaire et aussi sur le mode de production.
Il faut manger moins de viande. Hein. On diminue sa consommation de viande à pratiquement de moitié.
Voilà. Mais ça ne sera pas un mal non plus pour des raisons de santé.
Oui.
Et il faut aussi diversifier, bien sûr, la production agricole, puisque la Bretagne a tendance à produire un surplus de viande, un surplus de produits laitiers. Donc il faudrait...
Parce qu'on a spécialisé les territoires.
Exactement.
À la sortie de la guerre, on a commencé comme ça.
Et donc, il faudrait que l'Île-de-France produise peut-être un petit peu plus de viande, mais que la Bretagne en produise un petit peu moins. Et là, on s'en sortirait... beaucoup mieux. Et il suffirait d'ajouter un périmètre un rayon de 6,3 km, je crois, autour de ce territoire de l'agglomération pour produire 100% des besoins alimentaires de la ville. Donc on ne peut pas dire que c'est anecdotique. Au contraire, c'est tout à fait extraordinaire.
Alors on va revenir avec vous, Claude-Marie Vadreau, en Île-de-France. On sait qu'au début du XXe siècle à Paris, donc, il y avait un débouché de taille extrêmement important pour les maraîchers, les céréaliers. Il y avait un retour de gisements d'engrais organiques avec crottin de cheval, poubelles, eaux usées. En fait, c'était le siècle d'or de l'écologie industrielle qu'on redécouvre aujourd'hui. Et puis, deuxième moitié du XXe siècle, l'énergie est pas chère, les transports non plus, étalement urbain, internationalisation du marché. Donc là, c'est le divorce ville-campagne. Depuis une dizaine d'années, on voit qu'il y a quand même un retour de flamme, hein, qui est quand même tout à fait intéressant. Mais quelle est la situation en Île-de-France? Près de 12 millions de personnes aujourd'hui. On rappelle que le territoire francilien est constitué de 51% de terres agricoles, beaucoup de personnes ne le savent pas forcément, on a 23% de forêts, on a 1% de cours d'eau, et le reste, c'était à peu près 25% est urbanisé. Mais où en est-on par rapport à ces problématiques?
Bien, il y a une demande d'un certain nombre de gens. Il y a énormément de demandes de la part des agriculteurs, de jeunes agriculteurs, qui veulent s'installer près des villes, tout simplement parce qu'ils estiment que leur clientèle sera importante et captive, et puis parce que comme ça, ils pourront habiter et vivre près des villes, ce qui, après tout, est un sentiment. On est peut-être plus à l'aise en Île-de-France que dans le fin fond de la Corrèze. Donc, il y a ça. Il y a donc une demande de terrain. Malheureusement, elle se heurte aux promesses électorales, c'est-à-dire que les élus locaux et régionaux promettent des terres agricoles. Et ensuite, ces terres agricoles, je pense à Brétigny, je pense au plateau de Saclay, finalement, on se dit qu'on pourrait peut-être y construire des bâtiments, y installer des dépôts, des centres d'éclatement de camions, etc. Et puis les promesses fondent au soleil. Donc il y a
Brétigny, c'est intéressant parce que Brétigny-sur-Orge,
c'est une base aérienne.
Voilà, 750 hectares quand même en Essonne. Projet soutenu d'ailleurs aussi par NKM.
Absolument. J'ai même vu de mes propres yeux la signature manuscrite avec un mot d'encouragement à ceux qui veulent faire de cette zone une terre agricole. Ouais, mais les élus.
Alors ça ne les intéresse pas, c'est quoi?
Ça leur rapporte rien. Ouais. La terre agricole, tout comme les jardins familiaux, ça ne rapporte rien à une municipalité. Donc elle ne veut pas mettre en jeu son budget en faisant plaisir aux habitants.
Comment on peut faire pour retourner l'affaire? Ça va être du législatif, ça va être du réglementaire, pour, si on veut réorienter cela aujourd'hui, parce qu'on n'a pas 36 moyens. Je veux dire que les gens sont libres, effectivement, de vendre leurs terres agricoles à qui ils veulent aujourd'hui.
C'est au moment des plans d'occupation des sols, hein, des PLU, qu'il faut geler ces terres agricoles. Et puis il faut aussi, peut-être, notamment en France, savoir que les jardins familiaux vivent sous une loi qui date de 41 et de 52 et qui ne les protège pas. Ce qui veut dire qu'on va accorder, je pense à Stein, je pense à d'autres villes de banlieue, on va accorder des grands espaces à des jardins familiaux en attendant. Et puis le jour venu, on en supprime 40, 50 pour construire. C'est une espèce de variable d'ajustement et c'est ça qui me gêne. Je voudrais que la loi, puisque vous faisiez allusion à la loi, puissent protéger définitivement les jardins de Sevran, les jardins de Stein, les jardins de Saint-Denis, etc. etc. Et pour l'instant, il y a bien une proposition au Sénat qui date de 2002 ou 2003, mais elle est restée lettre morte.
Alors, ce n'est pas évidemment qu'une spécificité de l'Île-de-France, hein, francilienne. On voit ça très bien aussi en Pays de Loire, en Rhône-Alpes, avec votre association vraiment Île-de-France Environnement qui fait un sacré boulot, et votre revue qui s'appelle Liaison. Ça aussi, on peut la trouver. Vous avez des choses très intéressantes, et puis vous travaillez aussi sur cette thème-là, qui est fondamental, le foncier. Mais on voit quand même que toute cette agriculture, si on reprend maintenant un peu le spectre du monde, parce que c'est comme ça aussi qui nous intéresse, ça bouge en beaucoup de coins encore, Jacques Mirenovitch.
Oui, on peut dire que c'est un phénomène mondial. Alors, l'agriculture urbaine, elle a toujours existé dans les pays du Sud. Hein. Ça a toujours été naturel, oui, spontané, une évidence dans ces pays. Mais en effet, dans les pays du Nord, donc riches et industrialisés, les villes ont cru qu'elles pouvaient se couper de la terre. C'était pas grave.
Hors sol, quoi. Voilà, on vit hors sol.
Voilà, aucune importance. Et à propos de la manière de promouvoir cette agriculture urbaine, il faut quand même signaler l'association Terre en Ville, hein, qui fait un gros travail pour aider les politiques urbaines agricoles qui commencent à émerger. Et donc on en cite un certain nombre, il y a plusieurs volets, c'est effectivement la protection des sols, la politique du foncier, la gestion de l'espace, c'est l'appui au circuit court, c'est l'aide à l'installation aussi qui est très très importante. Et là il se passe quand même des choses, par exemple la ville d'Aubagne, hein, qu'on a citée, elle protège dès qu'un agriculteur arrive à la retraite. Eh bien, elle protège l'exploitation. Et si aucun agriculteur ne vient se présenter pour la reprendre, alors elle aide à l'installation d'un nouvel agriculteur.
Donc là, il y a un vrai choix politique.
Et donc, il y a un vrai choix politique qui est possible. Et plus il sera poussé par des gens qui aideront à ce genre de politique, eh bien, plus elles pourront se concrétiser.
Donc, allez secouer vos élus. Hein, c'est ça, votre citoyen là, qui nous écoutait.
Oui. Il ne faudrait pas qu'il y ait de possibilité de retour en arrière. Une terre est agricole. On cherche un exploitant. Et non pas on cherche quoi y construire. C'est ça qu'il faut, tout au moins autour des villes.
C'est un enjeu qui est extrêmement important. On ne s'en rend pas compte du tout. Parce que, par exemple, en Ile-de-France, j'avais vu un chiffre. Je crois que c'était à peu près dans les années 50-60. Et une fois de plus, on ne va pas nous faire le coup du retour à la bougie. Non, ce n'est pas ça du tout. Mais l'Ile-de-France pouvait avoir une autonomie alimentaire autour de 30 à 40 jours. Et aujourd'hui, c'est 3-4 jours, pas plus. Donc c'est quand même...
Ça dépend de nos chers camions de 44 tonnes.
Et oui, bien sûr, puisque nous avons augmenté, on espère, les camions de 50 tonnes très très bientôt. Je vous signale qu'il y a un excellent bouquin de Alain Mogard que j'avais reçu dans cette émission qui s'appelle « Regard sur la ville durable vers de nouveaux modes de vie » et qui dépeint donc aussi très très, très bien ce phénomène. Alors, on va continuer. Moi, je vous propose de faire un petit tour du monde et on va aller tout de suite à Tokyo rejoindre Nelly Niva. Nelly Niva, bonjour.
Bonjour Denis.
Vous êtes une architecte urbaniste franco-japonaise. Et que signifie Niwa d'ailleurs, votre nom ?
Alors Niwa, ça veut dire jardin.
Voilà.
Comme quoi, des fois, on est peut-être très déterminé à faire des choses dans notre vie.
C'est pas mal. 35 millions d'habitants aujourd'hui, donc une des plus grosses villes du monde qui est Tokyo. Et alors, ce que l'on ne sait pas, c'est que c'est la ville au monde où il y a le plus d'agriculture urbaine, c'est-à-dire vraiment en plein milieu. On ne parle pas du périurbain. Qu'est-ce que ça représente ?
Alors, ça représente 2% des surfaces. Alors, ça peut paraître beaucoup ou pas beaucoup en même temps. Mais c'est une des villes du monde où il y a le plus d'agriculture. Et ça, c'est quand même très excitant de comprendre pourquoi, finalement, il y a tant d'agriculture à Tokyo.
Et historiquement, il y a toujours eu de l'agriculture ?
Alors oui, historiquement, à Tokyo, il y a toujours eu de l'agriculture. Il y en avait même beaucoup plus. On est allé jusqu'à 40% d'agriculture à Tokyo. Et ça, pourquoi ? Parce que à l'époque, des samouraïs, donc l'empereur avait dit à tous les samouraïs des provinces de venir, qui se sont installés à Tokyo et qui se sont mis à cultiver les produits de leur région.
Où se trouvent ces parcelles aujourd'hui ?
Alors ces parcelles aujourd'hui, elles se trouvent au centre de la ville de Tokyo, ou un peu plus en périphérie de la ville de Tokyo, mais principalement au centre de la ville. Alors ce qui est intéressant maintenant et ce qui se passe à Tokyo, c'est qu'on invente des nouvelles surfaces d'agriculture dans la ville. Donc ça peut être sur les toitures, sur les façades des bâtiments, entre aussi les infrastructures routières, sous les routes, sous les poteaux électriques, et aussi à l'intérieur des bâtiments.
Et 80% des Japonais sont en fait très favorables à cette proximité agricole.
Et on les comprend, parce que finalement, qu'est-ce qu'amène l'agriculture à la ville de Tokyo ? Elle lui amène des produits qui sont frais. Oui. On sait que dans la culture japonaise, on mange beaucoup de produits très peu cuits, très peu préparés, donc c'est un avantage. Et surtout, elle leur amène une certaine sécurité en cas de tremblement de terre, parce que finalement, ça leur fournit des espaces vides, enfin ouverts, où se réfugier en cas de tremblement de terre et d'effondrement de bâtiments.
On va rappeler que Tokyo est une ville de faible hauteur, justement, du fait de ces tremblements de terre. Mais on gagne beaucoup actuellement sur les toits des maisons, les toits plats ?
Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une nouvelle législation qui existe dans la ville de Tokyo, qui demande, en fait, enfin, une norme qui dit qu'on doit verdir les toitures de plus de 250 mètres carrés. Pour les bâtiments publics. Ce qui fait qu'on a commencé à verdir ces toitures à Tokyo et on a commencé à y mettre de l'agriculture.
Alors, faut bien comprendre qu'en fait, c'est pas du travail de bobo, c'est-à-dire, on va dire, deux tomates par-ci, par-là pour se faire plaisir. Pas du tout. C'est que ça correspond à quelque chose d'extrêmement profond. C'est essentiellement des légumes, parce qu'ils rapportent le plus, on va dire. Donc, il y a une culture maraîchère. Et c'est en pleine croissance.
Et oui, c'est en pleine croissance, d'une part parce que on a donc toutes ces toitures vertes qui se verdissent, et il y a vraiment une volonté de la population de développer ces surfaces agricoles. Et d'ailleurs, le gouvernement de Tokyo même rachète des terrains au centre de la ville de Tokyo qui ont une valeur inestimable pour les transformer en surfaces agricoles. Et ça, c'est un acte très fort.
Mais ce ne sont pas des produits très pollués parce que la terre, je crois, est importée de zones rurales.
Voilà, exactement. C'est-à-dire que, alors, c'est un grand mystère quand même autour de l'agriculture dans les villes. C'est est-ce que les productions seraient plus polluées en ville qu'à l'extérieur des villes? Ça, pour l'instant, on n'a pas beaucoup de recherches. Mais en tout cas, au niveau de la pollution des sols, on peut dire qu'on s'en tire parce qu'on importe de la terre qui est saine, en fait. La production agricole de Tokyo fournissait 6,7% des légumes verts. Donc, c'est quand même pas négligeable. Et puis l'autre chose, c'est qu'elle amène des espaces ouverts dans la ville de Tokyo. Et ça, c'est relativement important quand on sait que Tokyo dispose de 3 mètres carrés par personne de parc et que, par exemple, Amsterdam dispose de 35 mètres carrés. Donc avoir des petites surfaces vertes, même si elles ne sont pas accessibles, parce que on peut pas se promener au milieu des carottes, disons, mais c'est quand même très important en fait pour cette ville.
Alors, je tiens à préciser que ce n'est pas une tendance depuis Fukushima, hein, pas du tout. C'est que c'est déjà de façon partie bien avant. Jacques Mirinovitch, je vois aussi que la ville de Londres, par exemple, au-delà d'un côté, on va dire, affichage, son maire a lancé un pari, mettre 2012 parcelles à l'intérieur de la ville en 2012. Bon, il y a le côté un peu marketing quand même derrière, mais déjà en août 2011, il y a 1200 jardins communautaires qui accueillent 35 000 jardiniers. Donc ça y va, il y a une vraie demande de la population.
Oui, c'est un phénomène vraiment mondial qui a commencé aussi en Amérique du Nord, qui est très très fort à Montréal. On décrit
les jardins partagés, ça vient de...
Les jardins partagés, ça vient de Montréal, ouais. Et donc nous, on appelle ça les potagers urbains. Donc ça, c'est la dénomination en Suisse. En France, c'est les jardins partagés. Et maintenant, il y a les jardins communautaires. Donc la grande innovation par rapport aux jardins familiaux ou aux jardins ouvriers, c'est qu'il y a une charte de gestion collective, biologique bien sûr, de ces parcelles, et ça crée de la rencontre, de la convivialité, de la pacification, et donc ça a énormément d'atouts et d'intérêts.
Comme votre revue est franco-suisse, comment ça se passe en Suisse dans ce domaine?
Dans ce domaine, alors disons que les tendances sont en gros exactement les mêmes qu'en France et en Europe de l'Ouest d'une manière générale, mais il y a peut-être des grosses différences d'un canton à l'autre, puisque par exemple le canton de Genève, qui est très très en avance, on ne l'a pas cité, mais on a un article aussi sur les serres à tomates qui sont chauffées par les flux urbains. Donc là, on est dans l'écologie industrielle. Le canton de Genève a une très très forte politique de planification énergétique du territoire qui inclut le volet agricole. Mais par exemple, nous habitons dans le canton de Fribourg, qui est un canton très très rural. Donc
moins écolo, là.
Alors, moins écologique, oui. Mais il va le devenir, j'en suis sûr. Mais qui est moins... Disons, il y a encore énormément d'agriculteurs à proximité des villes qui ne sont pas bien grandes. Ouais. Donc, c'est très différent.
Alors, on voit donc tout cela qui est en train d'évoluer quand même assez vite. Non, c'est intéressant parce que si on demande aux Français, est-ce que vous avez l'impression de... Ben non, mais de plus en plus, hein, il y a des villes à l'intérieur. Alors, une fois de plus, on ne va pas résoudre le problème de la faim dans le monde, ni forcément la faim dans les villes avec cette histoire-là. Mais c'est quand même une tendance qui est lourde. Et puis, on rappelle quand même que la ceinture périurbaine est extrêmement forte. Ça veut dire derrière qu'il faudrait organiser les villes différemment.
Ben oui, peut-être que plutôt que de se débrouiller avec les villes telles qu'on en hérite, on peut directement penser l'urbanisme différemment pour faire la place belle à l'agriculture. Et donc, on cite quelques exemples. Maintenant, il y a la notion, après les écoquartiers, on parle des agro-écoquartiers. Donc, une manière de gérer l'espace qui inclut en effet l'activité agricole parce qu'elle a énormément d'importance. Disons que les gens qui se préoccupent de la raréfaction et du renchérissement des sources d'énergie pensent que c'est une excellente manière d'anticiper, d'augmenter la résilience sur les territoires et dans les villes d'une manière générale.
Puis on rappelle, moi, juste un chiffre, on va pas vous abreuver, mais en l'an 2000, 44% des exploitations françaises se situaient en zone urbaine ou périurbaine. On n'a pas forcément un chiffre plus précis. C'est marrant parce qu'en France, c'est moins évident parce qu'on consomme des chiffres. Qu'est-ce qui vous donne espoir dans tout cela, Claude-Marie Vadrou, qui voyait donc ceci évoluer?
Ce qui me donne espoir, c'est que on commence à ne plus se moquer de cette agriculture de la ville ou autour de la ville. C'est qu'on commence à ne plus se moquer des gens qui défoncent leur pelouse pour y planter des poireaux, quel que soit leur problème financier. Et vous disiez tout à l'heure qu'on ne va pas résoudre les problèmes de la faim dans le monde, mais avec les jardins familiaux et les jardins privés, on va résoudre une partie des problèmes des chômeurs,
oui,
de la faim des chômeurs, car il y a beaucoup d'endroits où le jardin familial ou le jardin loué représente une bouée de sauvetage à partir du 20 du mois. Et là, c'est de l'écologie, parce qu'il ne faut pas dépenser trop pour les engrais, mais c'est aussi un moyen de survivre. Et c'est un moyen, moi je l'ai constaté à Stein, et c'est ça qui me rend optimiste. C'est un moyen de rendre de la dignité aux gens. Le chômeur qui a son jardin, il se sent à nouveau utile à sa famille. Et ça lui permet d'attendre des jours meilleurs. Et c'est ça, moi, je vois, je voudrais que tout le monde devienne écolo, bien sûr, mais c'est par cette pratique-là qu'on va changer nos habitudes. Et un dernier mot sur les jardins, on parlait des animaux tout à l'heure, au cours de l'enquête que j'ai fait pour un bouquin, moi j'ai découvert des vaches au fond des jardins. C'est interdit officiellement. Mais du côté de Roubaix, il y avait 2-3 vaches familiales, en quelque sorte. Et ils avaient tous appris à traire une vache. Et après, quand je les ai vus, ils allaient apprendre à faire du fromage avec le lait. Donc, ils étaient 5 familles propriétaires d'une vache planquée au fond des jardins familiaux, malgré les interdictions.
Ils étaient un peu à l'étroit, peut-être, les vaches. Donc, enfin,
bon, non, ça allait, elles pouvaient sortir brouter.
Ah, bah, d'accord.
Pas les salades, bien sûr.
Non, bah, bien sûr. Oui, bien sûr. Lorsque l'on voit Michel Obama, donc, en mars 2009, donc, il retourne une partie du gazon de la Maison-Blanche. On est dans l'affichage, évidemment, politique, quand on arrive, mais quand même, c'est aussi très symbolique.
Justement, on n'est pas uniquement dans l'affichage, puisque, apparemment, elle tient absolument à ce que les produits de son jardin soient servis à la table familiale le soir. Et ce qui est intéressant dans la démarche de Michel Obama, c'est que c'est pas seulement une incitation à l'agriculture de survie, à retrouver un sens, une dignité dans l'existence, mais c'est vraiment aussi le retour d'une alimentation saine, qui a du goût, qu'on a plaisir à manger. Et donc on voit finalement que cette histoire d'agriculture urbaine, elle est vraiment enchanteresse. Elle a toutes les qualités, et encore une fois, je pense que c'est un grand motif de réconfort et d'espoir dans un concert de mauvaises nouvelles qui nous assaille tous les matins en ce moment.
Qu'est-ce qu'on a comme autre exemple qui vous a plu, Jacques Mirinovitch, au cours de cette enquête, donc bien approfondie avec la revue Durable?
Ben c'est justement le côté massif et le côté aussi donc très populaire. Ça sort les écologistes de leur petit vase clos.
Leur petit lopin, voilà.
Et surtout, je crois, ce qui est très important, c'est que si on veut résoudre la crise écologique, il faut absolument qu'on change nos styles de vie. On ne va pas s'en sortir uniquement parce qu'on va découvrir des technologies miracles, des solutions avec une baguette magique. Donc ça passe aussi par la vie quotidienne. Et là, on se heurte à quelque chose d'extrêmement délicat, qui est l'ampleur, la gravité des problèmes, par exemple le changement climatique, et le côté dérisoire de certains gestes individuels. Mais on voit que si ces gestes individuels ils sont pratiqués de manière massive, eh ben ça peut avoir un impact direct, d'abord sur les politiques locales, et puis ensuite, on peut l'espérer à un plus haut niveau.
Écoutez, un grand merci à vous, Jacques Mirinovitch. Donc, on peut renvoyer à cette revue Durable avec ce thème, donc l'agriculture regagne du terrain dans et autour des villes. Le site aussi de Île-de-France, Île-de-France Environnement, qui fait donc un travail assez remarquable, et la revue à laquelle vous participez, qui s'appelle Liaison. On reviendra aussi sur Île-de-France parce qu'il se passe quand même pas mal de choses, on s'en doute bien, sur ce sympathique territoire. Je peux aussi vous renvoyer à un autre ouvrage qui s'appelle Manger local, s'approvisionner et produire ensemble, signé Lionel Astruc et Cécile Croix. C'est aux éditions Actes Sud. Ça vient juste de sortir et là, c'est 26 initiatives qui reposent sur des expériences vécues, réussies et a priori facilement reproductibles. Voilà, donc là aussi, ça vous donne donc une autre idée pour compléter ce sujet. Merci à Sandrine Laurent, à Philippe Duclos qui était aujourd'hui la technique, à Stéphane Combe qui était notre assistant. Merci à Patrick Deschamps, camarade de l'Isère, et Valérie Ayestaraï qui réalisait cette émission. Jean-Baptiste Audibert a choisi les disques. Anne Gouzon a nourri les sites de CO2 Mon Amour. Et nous, on se retrouve à la possibilité d'enregistrer pendant une semaine et aussi de nous réécouter pendant 4 semaines. L'Atu du Mon Petit Loup, ce sera demain à 19h54 après les petits bateaux. Et puis je vous retrouve, y a pire comme traitement parce que nous serons en Corse, nous serons à Calvi pour le Festival du Vent la semaine prochaine. Oui, je pense qu'il y aura d'ailleurs du vent. On parlera beaucoup de Corse et d'environnement cette fois-ci. Et puis nous rejoindrons aussi Alain Baraton, Daniel Herrero et sûrement d'autres amis. Donc rejoignez-nous, on sera du côté de la Balagne à Calvi. Ce sera en direct la semaine prochaine. Pub.